vous reprendrez bien un peu de caté? Une émission proposée par Anne-Elisabeth Verrière et Elisabeth Jacob.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission « Vous reprendrez bien un peu de caté », l'émission du service de catéchèse du diocèse de Laval, présentée par Elisabeth Jacob. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Anne-Elisabeth, présentée également par Anne-Elisabeth Verrière.
Et aujourd'hui, nous accueillons, comme la semaine dernière, le père Franck Vielle pour continuer notre émission sur la miséricorde. Nous avions abordé la semaine dernière la question du sacrement de la réconciliation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer que le thème de notre émission soit « Bienheureux les miséricordieux ». Si vous voulez bien, pour l'introduire, j'aimerais vous lire quelques lignes de la femme que nous avons choisie cette année pour nous guider un petit peu au service de catéchèse. Une femme que vous connaissez certainement, Père Franck, Madeleine Delbrel, une poète incroyable du XXe siècle. Et donc, on aimerait vous lire quelques lignes qu'elle a écrit sur la miséricorde, un texte qu'elle a appelé « Bienheureux les miséricordieux ». Être miséricordieux, cela semblerait n'être pas un métier de tout repos. C'est bien assez de souffrir de ces misères sans avoir encore à souffrir la peine de ceux que nous rencontrons. Notre cœur s'y refuserait s'il n'y avait d'autre moyen pour obtenir miséricorde. Ne nous plaignons donc pas trop si nous avons souvent des larmes dans les yeux en croisant sur le chemin tant de douleurs. C'est par elle que nous savons ce qu'est la tendresse de Dieu. Sans chagrin à consoler, sans misère à transfigurer, sans faiblesse à compléter, la miséricorde errerait sans trouver d'hospitalité. Comme il faut des creusets solides pour porter le métal fondu, tout possédé et travaillé par le feu, il faut à Dieu des cœurs solides où puissent cohabiter à l'aise nos sept misères en quête de guérison et l'éternelle miséricorde en mal de rédemption. Voilà pour ces quelques lignes que j'aime beaucoup de Madeleine Delbrel sur la miséricorde. Alors ça continue encore après, c'est absolument magnifique comme texte. Mais je me suis arrêtée à ce passage qui nous parle de ces cœurs solides où la miséricorde peut venir brûler. Et j'aurais aimé vous demander aujourd'hui, est-ce que, à votre avis, comprendre pour nous la miséricorde, peut-être en la vivant par le biais du sacrement de la réconciliation, est-ce que ça permet d'obtenir ce cœur solide et peut-être aussi... Est-ce que cela permet à la miséricorde finalement de frayer son chemin dans notre cœur pour que nous-mêmes, à notre tour, nous puissions être un peu des révélateurs de cette miséricorde auprès de ceux qui nous entourent?
J'aime bien l'idée l'idée que la miséricorde peut se frayer un chemin dans notre cœur. Parce que en t'écoutant, Anne-Elisabeth, je me disais, finalement, le sacrement de la réconciliation, bien sûr, c'est un moment donné, ça dure quelques minutes. Mais en réalité, c'est comme l'Eucharistie. De même que l'Eucharistie, toute notre vie est appelée à être eucharistique. Et donc, ça ne s'arrête pas à aller dans la paix du Christ. Eh bien, pour le sacrement du pardon, de la miséricorde, c'est un peu pareil. C'est toute notre vie qui est appelée à vivre dans ce sacrement de miséricorde. Et en t'écoutant, hier, j'accompagnais des jeunes pour la profession de foi. On avait une journée de récollection. Voilà. Et en fait, je me rendais compte combien, peut-être que l'actualité présente me portait à avoir ce regard, mais combien il était beau d'avoir un regard de miséricorde sur les jeunes qui étaient là. Parce que c'est d'abord ça qui nous est demandé. Et je pense que pour avoir ce regard de miséricorde sur ces jeunes, voilà, qui sont ce qu'ils sont, avec quelquefois on n'est pas d'accord avec eux, ou ils peuvent nous agacer, ou voilà, c'est bien normal. Mais en même temps, comme adulte, et là je parle aux catéchistes ou aux animateurs de jeunes, comme adulte, je pense que c'est sans doute la mission première, avoir un regard de miséricorde sur eux. Parce que c'est le regard de Dieu qui est porté sur eux. Alors après, ça se traduit évidemment par des attitudes, ça se traduit par des paroles, ça se traduit par une prière que l'on peut avoir pour eux, ça se traduit par toute une vie en fait. Mais je pense que c'est notre vie, elle est donnée comme ça, et si elle n'est pas donnée comme ça, elle n'est pas donnée en fait. Il faut qu'elle soit donnée par le prisme de la miséricorde. Et alors pour revenir à ton idée première, se laisser traverser par cette miséricorde de Dieu. Alors bien sûr, je crois que c'est vital ça.
Merci.
Et pour regarder un jeune avec un regard miséricordieux, comme vous disiez, on est humain, hein, donc avec nos fatigues de fin de journée, donc parfois, oui, ça peut être compliqué de les regarder avec miséricorde, mais du coup, en vous écoutant, je me dis, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, on parlait du sacrement de réconciliation à la première émission. J'ai envie de dire, j'ose, si on est catéchiste, en fait, il faut vivre du sacrement. Oui, je sais, Anne-Elisabeth sourit parce que c'est un de mes dadas, mais vivre du sacrement de réconciliation pour pouvoir avoir ce regard miséricordieux. Mmh. C'est-à-dire, si on reçoit de Dieu, on peut le vivre, parce que sinon, on est exactement comme les autres, on est humain, quoi. Mmh. Donc,
je crois que c'est une exigence de... Il y a une grande exigence, là, et de vérité, finalement. De vérité vis-à-vis des jeunes ou des enfants. Si on les initie au sacrement du pardon, eh bien, il faut soi-même avoir l'honnêteté de se dire, mais moi aussi, je marche sur ce chemin. Hein. Je marche sur ce chemin. Alors, j'en suis peut-être pas... Peut-être que des animateurs ou des catéchistes n'en sont pas encore là. Mais avoir l'honnêteté de se dire, eh bien, je prends ce chemin. Je prends ce chemin parce que je vais être en vérité avec ce que je dis et avec ce que je suis. Et donc, j'encourage vraiment les animateurs et les catéchistes à prendre ce chemin, voilà, qui est un beau chemin, qui n'est pas là pour les écraser, mais pour les relever, vraiment. Et donc, ne pas avoir peur, encore une fois.
À prendre ce chemin pour que, comme dit Madeleine Delbrel, la miséricorde se ferait elle-même un chemin.
Oui.
C'est beau parce que nous, on prend un chemin et la miséricorde se ferait un chemin. Oui. Juste pour appuyer ce que vous dites, dans l'école de prière, ça arrive souvent au moment où on... Dans le festival de la prière, on vit le sacrement de réconciliation pour les enfants qui veulent. Ils sont toujours très impressionnés de voir un prêtre se confesser ou de voir un des animateurs se confesser. Et c'est drôle parce qu'ils ont la naïveté de dire « Ah, lui aussi, il fait des péchés !» et ça les surprend et en même temps, ça les édifie vraiment. Ça les aide et on est pareil. Enfin, moi, ça m'émeut toujours beaucoup de voir un prêtre aller se confesser.
Et moi, ça m'émeut de voir le pape se confesser. Enfin, un prêtre aussi, bien sûr, mais quand on voit le pape qui se met à genoux devant un autre prêtre pour demander le pardon, c'est toujours ça nous grandit tous. Ça nous grandit tous.
Exactement. Bien sûr. Allez, je vais encore citer le pape François. Du coup, bon, ça fait un peu groupie. Hein, j'en ai bien conscience, mais. Parce qu'il y a une notion dans le sacrement de réconciliation quand même de « on y va pour nous-mêmes, mais c'est toute la communauté qui profite du sacrement qu'on reçoit ». Et le pape François dit, et alors il commençait en disant « courage, va te confesser, ne perds pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon ». Et il continue « dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas seulement Dieu, mais toute la communauté qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres, et qui l'accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. » Fin de citation. Moi, j'ai mis très longtemps à découvrir ça dans le sacrement de réconciliation. Je pensais que j'y allais pour... Enfin, moi, quoi. Pour arrêter de faire des bêtises, et puis pour m'aider et tout ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ose pas dire quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai découvert que ça... Tout l'impact que ça avait sur toute la communauté chrétienne, et puis même... plus largement que la communauté chrétienne, et que donc quelqu'un qui va se confesser fait du bien à toute la communauté. Et ça, c'est... Enfin, j'aimerais bien aussi que vous nous en parliez un peu, parce que je trouve que c'est hyper important dans la relation qu'on peut avoir, nous, au sacrement de réconciliation.
Ben, en t'écoutant, en fait, je pense au peuple d'Israël. Et quand on regarde le peuple d'Israël qui traverse le désert, etc., et qui va jusqu'en terre promise. En fait, c'est toujours la notion de peuple qui est première. Bien sûr, il y a Moïse qui est là et qui encourage son peuple. Il y a évidemment l'attitude de chacun. Il y a ceux qui murmurent, il y a ceux qui, etc. Il y a tous les cas de figure. Mais c'est le peuple qui avance, qui est promis à cette terre promise, justement. Eh bien, je pense que c'est évidemment la même chose pour notre Église. Quand quelqu'un entre dans la lumière, eh bien, c'est tout le corps du Christ qui est guéri, en fait. De même que quand quelqu'un fait un péché, c'est le corps du Christ qui est blessé. Eh bien, quand quelqu'un retrouve la lumière, reçoit le pardon, la miséricorde, bien sûr, il en est le premier bénéficiaire, mais c'est plus grand que lui, donc ça touche au-delà de lui. Mmh. Hein, parce que Dieu, en fait, il donne sa miséricorde aussi à travers les membres de son Église. Et je crois que ça, c'est très important, parce que ça peut aussi nous encourager à dire « je peux aller me confesser parce que c'est pas simplement pour moi aussi, c'est pour que ma paroisse, par exemple, soit renouvelé, eh bien c'est peut-être le premier mouvement d'un renouvellement profond si je fais ce... Ben si j'y vais. Si j'y vais, ouais.
Ça me fait penser aux communautés religieuses. J'avais un vieil oncle trappiste, mais que moi je n'ai pas connu. Mais ma maman nous disait qu'un jour elle lui avait dit « Oh, c'est tellement beau votre vocation, les moines, tout ça. » Et cet oncle, qui était assez cash, avait répondu « Ouais, faut pas idéaliser non plus, c'est un miracle perpétuel que ça se termine pas en bataille générale tous les soirs. » Et du coup, c'est vrai que les communautés religieuses comme ça, c'est de l'ordre du miracle que ça tienne, mais ils se confessent, enfin, mon frère moine, où j'ai toujours l'impression qu'il a fait péché, et bien il se confesse toutes les semaines dans sa communauté. Donc je me dis aussi, en vous écoutant, c'est pas que pour eux qu'ils se confessent toutes les semaines aussi, c'est pour que l'ensemble du monastère tienne debout aussi, ouais. Certainement.
J'ai envie de rebondir juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le regard qu'on doit poser sur les jeunes. Je pense que ça t'inspire aussi en tant que maman, Elisabeth. Moi, juste pour dire que j'ai déjà croisé des regards souvent plutôt de personnes âgées, enfin, pas que, mais où on sent qu'ils sont complètement lavés par cette miséricorde. Et on sent qu'il y a un regard très particulier, et quand vous vous retrouvez dans ce regard, vous vous sentez tellement aimé. Bon, voilà, on parlera à la fin, à la dernière de nos émissions sur la miséricorde de nos rêves, mais c'est déjà un de mes rêves à moi d'avoir un jour ce regard-là, comme vous en avez peut-être croisé vous aussi.
On en a croisé un pas plus tard qu'au congrès mission. Je me permets du coup, mais à la toute dernière messe, Anne-Elisabeth, on avait devant nous un monsieur. Oui. Quand même assez âgé, de toute façon il ne se reconnaîtra pas, donc on peut y aller, il était vieux. et il était très très beau, parce que, alors on ne voyait pas son visage, mais il dansait, dès qu'il y avait de la musique, il était tout donné à Dieu, il avait les mains ouvertes, et puis vraiment il était beau, de dos. Et en plus il se retourne à un moment et il nous regarde, et là, quand tu parles de regard, il s'est tourné vers nous, il nous a souri au moment de la paix du Christ, là, puis il s'est remis. Et j'ai dit à Anne-Elisabeth, et en plus, il est beau. Mais en fait, il avait un regard incroyable. Oui. Et c'est vrai que c'est ces regards-là qui font du bien. Mais c'est... Le Christ regardait beaucoup. Il y a, dans l'Évangile, il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard miséricordieux, qui change une vie. Ouais.
Et en tant que maman, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur cette miséricorde, peut-être à l'intérieur de la famille?
Oui, ça c'est certain que pour pouvoir, enfin, dans une famille, si on découvre le sacrement de réconciliation et si on comprend la miséricorde, on a forcément un regard qui change. Mmh. Et pas que sur nos enfants sur nous-mêmes aussi. Maintenant, les enfants quittaient la maison, donc on ne le vit plus de la même façon. Mais quand on vivait des veillées de prière paroissiales où on allait tous à l'adoration et tous se confesser, ce n'était pas la même chose après à la maison. Et on sentait, c'était rigolo, quand 2-3 jours après, il y avait à nouveau une tension qui arrivait parce que l'un de nous retombait dans ses travers. Il y avait quelque chose de l'ordre de la tristesse familiale. Oh mince, c'est déjà fini. Parce qu'en fait, là, je pourrais en parler des heures, mais on touche le ciel quand on se confesse, en fait. Et donc, en famille, on touche le ciel aussi quand on y va tous. C'est pour ça, je redis ce que j'avais dit précédemment, c'est sans doute un des sacrements qui me fait le plus peur que mes enfants abandonnent, ce sacrement-là.
Un grand merci à tous les deux pour toutes ces choses extrêmement lumineuses que vous nous avez partagées sur la miséricorde.
Merci Anne-Elisabeth.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour une troisième émission également consacrée à la miséricorde. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et
merci.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.